philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph le 30 mars 1987.
Continuons ces quelques remarques au point de vue de la famille, au point de vue politique. Souligner la fragilité particulière dans laquelle se trouvait aujourd'hui la famille, qui exige par le fait même une conscience, une prise de conscience beaucoup plus forte de ce que représente le point de vue de l'engagement dans l'ordre de l'amour d'amitié. Un engagement qui implique une fidélité. Et c'est justement, vous voyez, là, c'est ça qu'il faut souligner aussi. J'ai souligné le point de vue économique qui avait changé de pôle. J'ai souligné les recherches scientifiques, biologiques, qui enlèvent, du moins qui tendent à enlever, comprenez bien, qui tendent à enlever l'enracinement naturel de la famille. Et ajoutons le point de vue psychologique qui tend à dire que on ne peut pas s'engager toute sa vie au point de vue fidélité, étant donné qu'au plan psychologique, on ne saisit pas la finalité et on reste uniquement au niveau du conditionnement. Je crois qu'il faut bien voir ces trois grandes attaques. La première, c'est une question de fait, c'est pas une attaque. Parce qu'au fond, que l'axe économique est changé, d'une certaine manière, ça peut permettre à la famille d'être beaucoup plus elle-même. C'est-à-dire d'être plus profondément humaine. Parce que l'enracinement économique de la famille, du moins l'enracinement économique dans la famille, c'est une question de fait. La famille telle qu'Aristote la donne dans la politique. Bon, ça, très bien. Là, rien n'a changé. Il ne faut pas revendiquer que la famille soit nécessairement le lieu de l'économie. C'est impossible, du reste, ça ne signifie rien du tout. On ne peut pas revenir en arrière. Il faudrait un cataclysme tel dans l'univers pour qu'on revienne à quelque chose de tout à fait différent. Mais ça, on ne peut pas le souhaiter. C'est un fait, donc soyons réalistes de ce côté-là. Les attaques biologiques, comprenons qu'il y a là quelque chose de faux. C'est très difficile, du reste, de bien le montrer. Je vous l'ai déjà dit, et nous savons bien, et nous le verrons bien, que de fait, beaucoup de médecins, aujourd'hui, au nom de la science et de la technique, veulent être eux-mêmes la mesure de l'union conjugale, oubliant que l'aspect biologique est un aspect de l'union conjugale, mais que l'union conjugale n'est pas mesurée par le point de vue biologique. Ça, c'est capital de bien poser le problème. Et c'est très difficile quand vous avez affaire à des médecins qui sont positivistes. Or, je crois qu'aujourd'hui, 95% des médecins sont positivistes. Je crois, comme les théologiens. Il faut bien voir, je crois que c'est un fait. Il faudrait sonder le milieu médical, mais je crois que assez facilement on peut dire ça. Je crois que vous diriez bien ça aussi, frère Pascal. Je crois que 95%, à peu près, sont positivistes. C'est-à-dire, comprenons bien, c'est-à-dire prennent le point de vue de Mono, la morale familiale doit évoluer en fonction des progrès de la science. Mono l'a exprimé d'une façon extrêmement nette. Parce que pour lui, ça ne faisait pas de problème. Et je crois que des quantités de médecins le diraient aujourd'hui. Et alors, ce qui est très curieux et très significatif, c'est leur colère en face des décisions d'Église. Ce qui montre bien que dans le fond de leur conscience, ils savent bien. que l'union conjugale n'est pas que biologique. Les hommes ne s'unissent pas comme les animaux. C'est pas humain. L'union conjugale est premièrement une union d'amour au point de vue spirituel, au point de vue personnel. Et c'est ça qui est la mesure même du foyer. Donc ces attaques au niveau aujourd'hui, au niveau biologique, attaques, oui, dans quel sens je veux le dire, cette espèce de poussée du progrès de la science qui veut donner à la famille comme de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. Dans un sens négatif et dans un sens positif, c'est ça qui est très très curieux. Dans un sens négatif par rapport à l'avortement, le médecin doit pouvoir régler la question de l'avortement s'il a affaire à un gosse, un petit tout petit, qu'il juge qu'il sera mal formé, il vaut mieux le supprimer. C'est très net dans la mentalité qu'une quantité de médecins, peut-être là, pas 95%. L'avortement, il y a quand même beaucoup moins. Je crois que là, on aurait moitié-moitié qui affirmerait ça aussi nettement. Mais il y en a quand même pas mal. Plusieurs fois, ça arrive. Et pourtant, je ne suis pas dans la vie apostolique, donc je suis toujours un peu à l'arrière-garde. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé de des gens que je connaissais qui sont venus me poser la question en disant « Le médecin a conseillé l'avortement. Qu'est-ce que vous dites, vous ?» Alors, c'est très facile de répondre comme certains « Ah, vous n'avez qu'à suivre ce que dit le médecin. » Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous devez, à ce moment-là, expliquer que le point de vue du foyer repose sur autre chose que les lois biologiques. Si le foyer reposait sur les lois biologiques, je vous dis que très très vite, il n'y aurait plus de foyer. Mais très très vite, en 20 ans, ce serait supprimé. Ça, je crois que de temps en temps, il faut le dire aux médecins. Il n'y a pas le courage de leur dire. Si on vous suivait, eh bien, ce serait la destruction de la famille, et la destruction du foyer, et la destruction par le fait même de l'humanité. Parce que c'est important qu'ils comprennent leurs responsabilités. Le professeur Marois m'avait dit ça, lui qui est biologiste et qui enseigne à Paris. Il m'avait dit ça il y a 20 ans. Le progrès de la science, au point de vue biologique, est tel que je prévois que les médecins biologistes, surtout les biologistes, parce qu'il ne disait pas les médecins, il disait les savants biologistes, et il avait raison de distinguer les deux. Il me disait toujours, moi je suis plus médecin que savant. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je fais plus attention aux problèmes de la famille que si j'étais que biologiste. Et il a voulu l'Institut de la vie pour que ce ne soit pas que les biologistes qui, comme il me l'a dit lui-même, décide du sort de l'humanité. Parce que quand vous touchez la famille, vous décidez du sort de l'humanité. Donc il faut être attentif à ça. Et il faut pouvoir de temps en temps, avec prudence, c'est évident, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est furieux et qui est en colère, c'est pas à ce moment-là que vous allez faire une correction fraternelle. Laissez-le en colère. Et puis écoutez, c'est la seule façon de faire tomber sa colère. Parce que si vous commencez à se faire la leçon morale à ce moment-là, ça ne sert à rien. Donc il faut se taire. C'est tout. Et c'est pas un manque de loyauté, de témoignage de la vérité. Parce qu'il faut se taire, c'est pas la peine. La correction fraternelle se fait quand on sait que c'est efficace. Autrement, c'est pas la peine. Ça fait pire que tout. On dira, voilà encore un curé qui n'y comprend rien. Donc c'est pas la peine. Tandis que si vous vous taisez, il ne peut pas dire vous comprenez rien. Vous avez au moins le respect d'un homme qui est en colère. Et qui est en colère parce que, de fait, au plan biologique, il a l'impression en rien à la biologie et qu'une fois de plus, l'Église se met en dehors du progrès scientifique. Oui, parce que c'est très véhément actuellement. Et ça, je crois qu'on doit y réfléchir philosophiquement. Parce qu'on doit avoir cette réflexion. Et avoir son regard de croyant et de philosophe. Il faut les deux. Pour savoir ce qu'on peut dire à un croyant et ce qu'on ne doit pas dire à quelqu'un qui ne croit pas. Il faut le savoir, ça. Ça fait partie de... Et si on ne voit pas soi-même, on renvoie en disant, écoutez-moi, dans ce domaine-là, vous savez, c'est très difficile. J'aime mieux que vous alliez voir un tel. Il faut avoir l'humilité de faire ça. Parce que c'est vrai que c'est très, très important. On touche à des problèmes qui vont très, très loin et qui, vous voyez, éveillent des réactions extrêmement violentes. Et c'est normal, du reste, parce qu'on touche le sort de l'humanité. Alors, on voit donc du côté avortement et du côté la procréation, la fécondation artificielle in vitro. Donc ça, c'est du côté positif. Parce qu'ils veulent comme ça sauver l'efficacité, sauver la fécondité. C'est ce qu'ils disent. Nous sauvons par là la fécondité. Alors que si on ne le fait pas, on laissera un foyer stérile. Alors, il y en a beaucoup plus, je crois. Actuellement, ce serait très intéressant de savoir, autant qu'on veut le savoir, beaucoup plus, qui sont de cette position de générosité, d'efficacité, et qui alors ne comprennent pas la législation d'Église, et qui ne la comprennent pas, et qui sont scandalisés. J'ai dit, l'autre jour, j'ai encore vu ce médecin, que je connais un peu, qui est arrivé furax. Il m'a dit, c'est ma femme qui m'a obligé de venir vous voir. Je dis, bon, si c'est votre femme que je vous vois, par le fait même, vous n'êtes pas dans la disposition de me voir. Alors il a souri tout de suite. Il a dit, oh, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire la morale. Puisque vous êtes médecin, vous êtes biologiste, vous êtes savant, et que vous êtes persuadé d'avoir la vérité. Moi, je suis du côté de l'Église. Et je suis assez libre par rapport à tout ça, parce que je ne suis pas marié. Mais croyez bien que je m'intéresse aux foyers, et je m'intéresse beaucoup à des foyers qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Je comprends très bien votre point de vue, je comprends très bien. Mais il est partiel, je n'ai pas dit plus. Pas la peine d'expliquer plus, il est partiel. C'est ça qu'on doit comprendre, que le point de vue biologiste est partiel. La science est abstraite, elle ne regarde pas l'homme et la personne humaine. La personne humaine est au-dessus. Et le savant ne pourra jamais déterminer la finalité de l'homme. Et donc, la biologie ne peut pas donner une règle à l'égard de la fécondité. Elle peut montrer les conditionnements. Très bien. Mais pas plus. Or, aujourd'hui, ils veulent déterminer. Ceci, c'est très important de se le rappeler, que face à cette attitude scientifique positiviste à l'intérieur du point de vue biologique, il faut rappeler que le foyer repose sur un acte humain libre qui échappe à la science. Ce sont deux êtres qui se sont aimés, qui s'aiment, qui se sont donnés mutuellement, et que le point de vue biologique ne peut pas expliquer ce qui constitue le foyer, cet acte d'amour personnel, mutuel. Troisième point délicat devant lequel on est, c'est le point de vue de la fidélité. Parce que là, la psychologie dira, mais la fidélité, mais c'est impossible. Elle dit ça aussi bien pour les vœux. Les vœux de religion. Et pour les vœux de religion, on est plus libre. Tandis que lorsqu'il s'agit de la fidélité dans le mariage, le psychologue a, j'allais dire, un impact plus grand. Parce que ou c'est la femme ou c'est le mari. On y sont deux, donc. Il peut y avoir toujours un peu un tiraillement. Et quand il y a un tiraillement, on va trouver le psychologue. Et le psychologue intervient entre les deux, voulant unir l'homme et la femme. Et ça fait des drames qui augmentent encore la scission. C'est très très rare qu'ils arrivent, parce que de fait, c'est pas leur rôle. Ils vont plus loin qu'ils peuvent aller. Puisque tout repose sur l'amour, et que la psychologie ne peut regarder que le conditionnement. Et alors là aussi, il y a des attaques, puisque c'est le problème de la fidélité. Pourquoi aujourd'hui il y a tant d'unions libres? On ne veut même pas passer devant le maire. Pourquoi y a-t-il tant d'unions libres? C'est parce qu'on a très peur d'un engagement qui engage toute la vie. On a peur de la fidélité. Du moins, on a peur de s'engager dans la fidélité. Alors on veut garder à tout prix la liberté. Vous voyez, c'est le fruit au fond, il faut bien le voir. C'est le fruit de ce plaidoyer que l'absolu, c'est la liberté. Depuis Descartes, on en voit les fruits aujourd'hui. Alors que toute liberté dans l'ordre moral, et je dis bien dans l'ordre moral, pas dans l'ordre artistique, parce que la liberté de l'artiste est autre chose que la liberté de l'homme tout court. Faut pas identifier les deux. L'artiste a une liberté d'artiste qui est très particulière. Je dis ça, c'est parce que chez Sartre, puisque c'est le philosophe de la liberté, il y a confusion entre liberté de l'artiste et liberté de l'homme. On ramène l'homme à l'artiste. Les grands artistes savent très bien que autre chose est leur vie d'homme et leur vie d'artiste. Ce sont les petits artistes qui font la confusion. Et les hommes qui n'ont pas beaucoup de vie humaine. Dès qu'on a une vie humaine ou religieuse comme vie humaine, ou une vie d'amitié, on sait que c'est autre chose. La vie d'homme et la vie d'artiste. La liberté de l'artiste est différente de la liberté de l'homme moral. Si on confond les deux, alors à ce moment-là, la liberté ne se fonde plus sur l'amour, elle se fonde sur notre inspiration. La liberté de l'artiste se fonde sur l'inspiration. Un artiste est libre dans la mesure où il est inspiré. Un artiste qui n'est pas très inspiré, il fait ce qu'on lui commande. Un artiste qui est inspiré dira « Non, non, je ne peux pas faire ça. Non, non, je refuse. Si je ne peux pas. Si vous voulez, je le fais en tant que religieux, par obéissance, mais ce n'est pas à l'artiste. Je ne peux pas. C'est contraire à mon inspiration. Il a le droit, en tant qu'artiste, de le dire ouvertement. Parce que la liberté de l'artiste repose sur son inspiration. Tandis que la liberté de l'homme moral, de l'homme tout court, repose sur sa qualité d'aimer. C'est dans la mesure où il aime qu'il est libre. Et plus il aime, plus il est libre. Autrement dit, c'est dans la mesure où il est finalisé qu'il est libre. Un homme vraiment finalisé, c'est-à-dire qui aime profondément un bien qui le finalise, acquiert une liberté toujours, une liberté intérieure toujours plus grande. Tandis que celui qui ne sait pas quelle est sa finalité, celui-là est dépendant de tout le conditionnement dans lequel il est. Alors, il faut bien saisir qu'un amour conjugal qui implique le don des corps en respectant la fécondité implique nécessairement une fidélité. C'est-à-dire que quand on aime une personne, on ne peut pas lui dire « je t'aime pour un temps ». Je me donne à toi et tu te donnes à moi. Et ceci, c'est pour toute la vie. C'est ça la fidélité. Et ça, c'est inscrit à l'intérieur même de l'amour d'amitié. Et évidemment, dans l'amour d'amitié entre amis, c'est plus facile. Je suis fatigué, écoute, respecte, je vais aller faire un petit voyage. Je suis fatigué de voir toujours les mêmes têtes. Très, très fatigant. Et la fatigue. ne retraite pas ici, parce que on l'a déjà traité plus d'une fois. Et s'il y a des questions, vous les reposerez à la goutte de lait. Parce que c'est très très important de comprendre que l'amour d'amitié impliquant le don des corps réclame la fidélité. Que c'est quelque chose de naturel. Et que si on détruit ça, on se détruit soi-même. Parce que ne pas être fidèle à l'amour, c'est la destruction la plus fondamentale de la personne humaine. On s'est détruit plus vite par le point de vue du cœur que par le point de vue de l'intelligence. Accepter des erreurs au point de vue de l'intelligence, c'est une destruction lente. Accepter une non-fidélité dans l'ordre de l'amour, c'est une destruction immédiate. C'est très curieux, ça. On est beaucoup plus vulnérable dans notre personnalité. Nous verrons à propos de la personne, du côté de l'amour que du côté de l'intelligence. L'intelligence a plus d'autonomie, si vous voulez. Alors on arrive plus facilement à se dépêtrer de situations difficiles. Tandis que du côté du cœur, on est lié. Et l'amour conjugal réclame cette fidélité. Alors voyez, dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas commode de lutter contre ces trois agressions. Mais ces trois agressions ne détruisent pas ce qu'est le foyer. Parce que le foyer repose sur cet amour d'amitié impliquant le don des corps. C'est-à-dire une amitié qui normalement implique la fécondité. Alors voyez, là on passe tout de suite à un nouveau problème par rapport à la philosophie de la famille, le problème de la fécondité. C'est au cœur de la famille. Fécondité ou stérilité, hein. C'est au cœur de la famille. La stérilité, c'est l'épreuve d'un foyer. Ça, il faut bien le comprendre. Ça explique l'attitude de certains médecins. Parce que c'est l'épreuve la plus grande d'un foyer. Et quand on est en face d'un jeune foyer qui s'aperçoit que de fait, il y a stérilité, il faut toujours comprendre que c'est une épreuve terrible. Pas dire à donner comme conseil, vous n'avez plus qu'à vous séparer. Non, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut dépasser cette épreuve. Toute épreuve, au point de vue amitié, toute épreuve réclame un amour plus grand. Et quand Dieu permet des preuves, c'est toujours pour que les œuvres de Dieu soient magnifiées, soient manifestées à l'intérieur de ceux qui souffrent cette pauvreté. Et c'est vrai même pour la stérilité. Alors, regardons les deux cas au plan philosophie de la famille. Le cas normal de la fécondité. Nous avons déjà vu, et je ne reprends pas, ce problème de la procréation. Mais c'est très important de comprendre que la procréation au niveau philosophique doit s'entendre selon des niveaux différents d'éthique. L'éthique familiale est une éthique d'abord humaine. C'est une éthique ensuite religieuse. Et c'est ensuite une éthique chrétienne. Et je crois qu'il faut regarder les trois niveaux quand il s'agit de la procréation. C'est d'abord une éthique humaine, donc fondée sur l'amour d'amitié et l'amour d'amitié des conjoints. Dans l'amour d'amitié des conjoints est l'intelligence normale de son corps et de son amour. Ça va très loin, ça. Et je crois que c'est une chose très très importante à rappeler au plan philosophique. À rappeler ce respect mutuel. Que là encore, ce que je vous disais tout à l'heure, quand il n'y a plus le respect de l'autre, tôt ou tard, l'amour en prend un gros coup. Parce que la justice est gardienne de l'amour d'amitié. Et donc, s'il n'y a plus le respect du droit de l'autre, et qu'il y a une certaine violence, respect vis-à-vis de l'autre, très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le pense, l'amour, alors, doit porter, et en portant, l'amour ne peut plus s'épanouir. Et un amour qui ne s'épanouit plus se détruit. Il ne peut pas y avoir dans l'ordre de l'amour une eau stagnante. Dans l'ordre de l'amour, il faut progresser. Et quand vous prétendez rester sur une eau stagnante, vous détruisez l'amour du conjoint. Et c'est toujours un manque de respect. Pourquoi y a-t-il tant de divorces ? Parce qu'il y a un manque de respect. Ça, toutes les expériences que j'ai eues dans ce domaine-là, et vous voyez bien, elles sont nombreuses, hein. C'est toujours un manque de respect, tout le temps. C'est très difficile aujourd'hui d'aimer vraiment, parce que la passion très souvent l'emporte, et la passion n'est pas respectueuse, parce que la passion cherche uniquement la jouissance immédiate. Seul l'amour spirituel à l'égard d'un autre respecte l'autre. C'est la connaissance intellectuelle de l'autre qui implique le respect de l'autre. S'il n'y a pas cela, c'est la passion. Et la passion n'est jamais respectueuse. Elle peut apparaître comme tendre, douce, momentanément. Mais il y a les lendemains. La passion n'est jamais continue, vous voyez. C'est ça qui est terrible là-dedans. Si. Alors un jour vous serez comme du miel, comme de l'huile, d'une douceur merveilleuse. Et le lendemain, c'est comme ça. Vous voyez, c'est la même chose dans la générosité. Quand la générosité est passionnelle, elle est énorme sur le moment. Puis le lendemain, il n'y a plus personne. Parce qu'on n'a pas compris que la générosité vraie est au niveau volontaire. Et c'est ça qui dure. La vertu, elle est dans l'ordre de la durée. Tandis que la passion, elle est dans l'ordre d'ancy. C'est là où on voit le mieux. Si on a affaire à quelqu'un qui est vraiment vertueux, et puis quelqu'un qui vit au niveau des passions. Au moment du coup de feu, on ne peut pas distinguer. Et c'est le lendemain que vous distinguerez. C'est très important pour nous à saisir ça. À saisir que, de fait, le manque de respect à l'égard de l'autre fait que l'aspect fidélité ne peut pas continuer. Il faut pouvoir emporter toutes les responsabilité. Et quand vous n'en portez pas toutes les responsabilités, et que vous faites porter sur l'autre votre responsabilité, il y a un aspect de violence. C'est pour ça que c'est si difficile d'aimer. Parce que très souvent, l'amour, ayant commencé de façon passionnelle, demeure au niveau passionnel, il n'y a pas de responsabilité. Des jeunes qui s'aiment et qui n'ont pas assez de force pour s'aimer vraiment, avec la responsabilité, vont poser sur l'autre la responsabilité. Et très facilement, l'homme fait reposer ses responsabilités sur son épouse. Alors elle tient bon un certain temps, et puis après, ça claque. Alors à ce moment-là, commencent les divisions, les séparations. Donc, il faut bien réfléchir là-dessus. Il faut bien réfléchir sur ce que représente la responsabilité qui est impliquée dans le mariage. Il ne faut pas dire « ce sont les lois de l'Église ». Mais non, c'est une exigence naturelle que l'Église a rappelée. Et que lorsque, de fait, on prend des moyens anticonceptionnels, c'est parce qu'on n'a pas la force de porter la responsabilité de son acte. Il faut le dire ouvertement, parce que ça libère les consciences. Je me souviens d'un petit dialogue, je vous en ai déjà parlé du reste, ça m'avait tellement frappé. Un petit dialogue, c'était avec des secrétaires des syndicats chrétiens qui, après la petite session qu'ils avaient avec moi, invitaient le sociologue, professeur de sociologie et d'économie à Lausanne. Et comme c'était juste après l'encyclique Humani Generis, ils étaient sûrs que sociologue parlerait tout de suite de ça. Et il m'avait dit, mon père, est-ce que vous ne pourriez pas rester à la session? Vous intéressez beaucoup à ce qu'il va dire. Parce que je suis sûr, nous sommes sûrs qu'il va faire son intervention. Alors, ce serait bien que vous soyez là. Et en effet, c'est arrivé. Disant que c'est invraisemblable que l'Église intervienne de cette manière-là. C'est bien des curés pour faire ça. Et ainsi de suite, vous voyez, c'est tout patence. Alors, j'ai simplement relevé à ce moment-là. J'ai dit, quand l'Église intervient, c'est que l'Église rappelle quelque chose de profondément naturel qu'on oublie. Et c'est un respect de l'un par rapport aux autres. Alors à ce moment-là, je l'ai interrogé directement en face des autres. J'ai dit, vous n'allez pas dire que c'est un manque de respect, parce que c'est un manque de responsabilité. Et tout manque de responsabilité implique un manque de respect vis-à-vis de l'autre, quand il y a une coopération. Alors on a poussé ça jusqu'au bout. Il a dit, c'était obligé d'avouer. Alors là, il l'avoue devant tous. Il a dit, c'est vrai, vous avez raison. C'est que nous ne voyons pas assez loin ce que c'est que l'amour d'amitié. Et la responsabilité qu'on a l'un par rapport à l'autre. Et le respect qu'on doit avoir l'un par rapport à l'autre. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas tenir ce raisonnement tout le temps, là encore. Soyons intelligents. Mais il faut comprendre que lorsque l'Église intervient dans ce domaine-là, l'Église rappelle quelque chose qui est inscrit profondément dans le cœur de l'homme et dans le cœur de la femme. Et que l'Église intervient à ce moment-là, non pas du tout, pour augmenter le joug, la difficulté, mais c'est pour sauver l'amour. C'est pour sauver l'amour. Et ça, je crois que nous devons très fort le dire, parce que quelquefois, c'est pas assez dit dans l'enseignement immédiat de l'Église. C'est pour sauver les exigences profondes de l'amour. Et si on ne les voit pas, on doit s'interroger pour essayer de comprendre que l'amour mutuel des conjoints implique ce respect de l'un par rapport à l'autre. Et ce respect de l'un par rapport à l'autre fait que on n'a pas le droit d'intervenir d'une manière artistique des exigences profondes, d'un amour qui assume le corps. Que ce soit très exigeant, mais l'amour est toujours très exigeant. Et tout amour réclame l'héroïsme. Si on comprend pas ça, ça prouve qu'on n'a jamais aimé. Tout amour réclame l'héroïsme. Et donc l'amour qu'on a vis-à-vis de quelqu'un exige qu'on l'a pris en responsabilité. Et donc ça exige l'héroïsme. Un héroïsme mutuel, un héroïsme. Et toute facilité dans l'ordre de l'amour détruit l'amour. C'est difficile d'aimer. C'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est relativement facile de payer ses impôts. Et c'est beaucoup plus difficile d'aimer. D'aimer une personne et de s'engager à l'aimer. Et de s'engager à aller jusqu'au bout. Je crois, voyez, qu'on doit reprendre aujourd'hui, face à ce libéralisme moral de facilité, on doit reprendre le sens qu'un amour s'acquiert. Ça ne vous tombe pas du ciel comme ça tout cuit. Un amour s'acquiert. Et il faut lutter pour que notre cœur grandisse dans l'amour, dans un amour véritable. Et qu'on ait tous responsables de la croissance de son amour. Cet amour peut-être nous a été donné gratuitement au point de départ, mais on est responsable de la croissance de cet amour. Et c'est cette responsabilité de la croissance de l'amour sur laquelle on doit insister pour faire comprendre ce qu'est la responsabilité mutuelle dans l'ordre de l'amour. Donc, comprendre ça au niveau humain, au niveau religieux. Alors, c'est toute la dimension de la procréation avec le concours de Dieu, ainsi qu'au niveau chrétien. L'indissolubilité du mariage repose sur la fidélité des conjoints. Et la fidélité des conjoints poussée jusqu'au bout implique l'indissolubilité du mariage. C'est pas deux choses différentes. C'est tout simplement une fidélité qui doit aller jusqu'au bout. Alors, au point de vue chrétien, on parlera de l'indissolubilité du mariage. Ne parlez jamais de l'indissolubilité du mariage à des non-croyants. Ça n'a pas de sens. Parlez de la fidélité dans l'ordre de l'amour. Et parlez de l'amour, d'amitié qui implique ce don mutuel de toute la vie et d'une responsabilité qu'on doit porter ensemble. Donc voyez bien ça. Ça, c'est la première question à l'égard de la philosophie du mariage. Et c'est en fonction de cette coopération à l'égard de Dieu qu'on pourra comprendre comment l'Église demande ce très grand respect de l'un par rapport à l'autre pour que l'amour grandisse et que l'amour ne soit pas violenté dans ce qu'il a de plus profond. Voyez, tout amour nous rend vulnérables, il ne faut jamais l'oublier. Et en raison de l'amour, on est beaucoup plus facilement violenté dans son amour que si on n'aimait pas. Si on n'aime pas, c'est la justice. Vous ne pouvez pas établir des lois de justice à l'intérieur de l'amour. Ça va plus loin. Et c'est plus profond des lois de justice. La loi de justice donnant, justice commutative. Un mariage qui est établi sur la loi de la justice et sur un contrat de justice ne tient pas et ne peut pas tenir. Et ça, c'est l'État qui fait tenir le mariage sur le point de vue de la justice. Eh bien, on sait très bien que ça ne peut pas tenir. Parce qu'il y a des moments où l'amour a des exigences qui vont beaucoup plus loin que les exigences de la justice. Et donc, si votre mari, si le mariage est basé sur la justice, il craquera. Vous savez, faut en avoir l'évidence philosophique. Vous poussez la philosophie jusque-là pour en avoir l'évidence, pour comprendre ce que ça représente. Alors, avant de passer à l'éducation, je regarde le cas de la stérilité. Est-ce que le philosophe doit regarder les deux cas? Le cas de la stérilité. Alors, dans le cas de la stérilité, pouvons-nous philosophiquement justifier la position de l'Église? C'est quand même très important, ça. Pouvons-nous justifier la position de l'Église uniquement au niveau de l'amour d'amitié? C'est-à-dire au niveau d'une éthique humaine? Je crois que oui. Toujours le respect à l'égard de l'autre. C'est très important, ça. De comprendre que ces manipulations au niveau génétique brisent un certain secret dans l'ordre de l'amour. C'est le dévoilement d'un secret dans l'ordre de l'amour. L'acte conjugal est un secret dans l'ordre de l'amour, puisque c'est un don mutuel, total. Et que tout don dans l'ordre de l'amour implique un secret personnel. Et ce secret, il est inscrit dans la chair. La violation de ce secret au nom de la science, au nom de la technique, en vue de l'efficacité qu'on fait. A-t-on le droit de violer un secret d'amour au nom de l'efficacité? Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.